Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Heuvels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons vous parler des vêtements dans la Bible, avec l'aide du pasteur Corinne Ackley, et vous parler de Samuel et Joseph. Mais avant, nous prions. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Malgré nos belles résolutions dans nos vies agitées, nous avons rarement le temps de tout faire. Après le temps du travail, le temps des soucis, le temps des fêtes, des amis et de la famille, voici venu le temps de la prière et de la louange. Le temps du retour aux sources de la parole, le temps du partage et de la réflexion. Amis connus et inconnus, prenons le temps de vivre ce temps comme une étape dans nos voyages, comme une auberge qui nous accueillerait en ce petit matin au détour de notre chemin.
Entre et vois, dans cette auberge, d'autres voyageurs sont là. Des voyageuses aussi, des pastourelles, des dentelières, des couturières, des ravaudeuses, des filandières. Ensemble, toi et moi, nous formons la parcelle visible d'un peuple innombrable. Un peuple en marche vers ce royaume qui n'a ni lieu ni frontière, mais qui s'approche et qui se laisse entrevoir. Ce matin, nous voudrions tout simplement parler ensemble, parler chiffon, parler tissu et dentelle, parler de la mode et des vêtements, des habits brodés et du tissage, ce patchwork dont sont faits nos vies. Un parcours cousu de fil blanc, avec un fil rouge en continu, et un fil d'or pour la touche finale. Toi et moi, ensemble, tissons l'Évangile.
Il y a quelque chose d'étonnant dans le tissu. À y regarder de près, ce n'est pas la couleur des fils qui en font la beauté. Pris séparément, un à un, ils n'ont rien d'impressionnant. C'est comme la solitude, elle est triste, juste une couleur.
Mais il n'y en a que trois, le jaune, le rouge et le bleu. Puis le noir et parfois le blanc. Juste un peu d'épaisseur et un peu de tessiture, mais rien de plus.
Quant à l'aspect, non vraiment, ce qui fait la beauté d'un tissu, ce n'est pas chaque fil. Par contre, prenez ces fils si quelconques et mélangez-les. Métissez-les, tricotez-les, fricotez-les, frisottez-les, tressez-les ensemble. Faites-les passer les uns dans les autres, sur les autres, croisant les autres, se nouant aux autres, s'accrochant aux autres. Et vous obtenez les plus belles merveilles du monde.
Les plus gracieuses tapisseries, les plus exquises broderies, les plus fines dentelles, les plus belles étoffes. Ne dit-on pas que même les pensées peuvent être étoffées ? Défaites ces chefs-d'œuvre et voyez ce qu'il en reste. De la charpie, de l'étoupe, de la bouillie filasse, des fils épars qui n'ont rien d'attrayant. Reprenez ces mêmes fils et tissez-les dans un autre sens, et voilà de nouveaux chefs-d'œuvre.
Ainsi la mission, ainsi l'Église, ainsi la vie, ce n'est pas que reprendre des fils. Celui de la vie, de la bonne nouvelle, de l'Évangile, d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Mais c'est les croiser tous ces fils et les recroiser sans cesse, différemment, avec autant d'imagination que de patience. Et vous obtenez, ou vous pourriez obtenir, la plus belle humanité qu'il soit. Rouge, jaune, bleu, plus le noir et parfois le blanc.
Ainsi soit-il. Ce sont nos métissages, nos croisements et nos frôlements qui donnent de la texture à nos vies, à nos paroles, à nos regards. Oui, assurément, Dieu a inventé le tissage avant de commencer l'humanité. Quant à toi, ami de passage, ne méprise aucun fil, ni le tien, ni le mien, aussi ténu soit-il. Il a sa place dans l'harmonie du monde.
Thank you. dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker.
Écoutons maintenant dans le psaume 139 quelques versets qui parlent de tissage. Ô Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon être, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais à quoi je pense. Tu sais quand je marche et quand je m'allonge, tu connais tous mes chemins. Car la parole n'est pas encore sortie de ma bouche que tu sais tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi et aussi devant. Tu poses ta main sur moi. Tu me connais à la perfection. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse toute ma science. C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère, Seigneur. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres suscitent l'admiration de ma vie. Quand tu me formais dans le plus grand secret, quand tu me brodais dans les entrailles de la terre, tu voyais tout mon être et rien n'était caché à tes yeux. À peine formée, j'étais sous ton regard, et tu inscrivais dans ton livre tous les jours qui me seraient accordés, alors que rien n'avait encore commencé.
Ce psaume dit l'étonnement, l'émerveillement de celui ou de celle qui se découvre aimé au-delà de toute mesure et qui prend conscience que ce n'est pas lui qui a aimé Dieu le premier, mais que c'est Dieu qui a fait tout le chemin, tout le travail. Ce psaume a été utilisé par les adversaires de l'avortement, c'est une utilisation tardive. L'auteur de ces paroles ne luttait pas pour la protection de la vie ou de la biodiversité, mais il luttait contre l'orgueil humain. L'orgueil humain qui se croit tout-puissant, alors que l'homme n'est qu'une créature fragile, vulnérable, dépendante en tout, dépendante du bon vouloir de ses parents, et les parents eux-mêmes ne sont pas tout-puissants, ils dépendent eux-mêmes d'un Créateur qui les précède et les entoure.
Oui, ce psaume a aussi été utilisé comme une menace, alors qu'il parle de confiance et de reconnaissance. On nous a agité l'image du Dieu qui voit tout, l'idole de l'œil qui regarde tous nos faits et nos méfaits, le Dieu qui terrorise les enfants désobéissants. On y a vu aussi le Dieu fatalité, celui de la prédestination qui tient entre ses mains nos destinées comme si nous étions des marionnettes à fil manipulées d'en haut. Alors que ce que dit ce psaume, c'est presque tout le contraire. Dieu est un Dieu patient, attentionné, qui prend soin de chacun, de chacune, que nous en ayons conscience ou non, qui n'attend rien de nos mérites et de nos efforts, mais qui offre gratuitement la vie en abondance, et c'est un cri de joie. C'est trop beau, cela dépasse toute ma science et toute ma connaissance.
Ce Dieu de l'Ancienne Alliance se fait soudain père et mère attentionné. Il fait, il tisse la vie, la diversifie et rend chaque être unique et complexe à souhait. On pourrait penser que Dieu joue, mais non, Dieu crée et s'applique à faire de sa création la plus belle des étoffes humaines. Tissage infini de molécules et de cellules, trames de fond et chaînes ADN, tressage de fils de vie et de souffle, savant mélange de la multitude des souffles et des désirs créateurs de Dieu. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh no, no, it's a crying shame. If I ever loved you, if I knew your name, you don't need a lawyer. I'm not making a claim. You don't need to surrender. I'm not taking aim. I don't need a lover, no, no, no. The wretched beast is tame. I don't need a lover. So blow out the flame.
Radio Grand Ciel, émission de l'Église protestante unie de Chartres, avec à la technique Émilie. Les intermèdes musicaux sont des extraits du très beau dernier CD de Leonard Cohen. Marie-Christine, tu voulais nous parler d'un autre texte biblique à propos du tissage et du vêtement.
Oui, le passage se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, les versets 18 à 20. Samuel officiait devant le Seigneur. C'était un garçon qui portait un éphod de lin comme un pagne. Sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement et le lui apportait en montant avec son mari pour offrir un sacrifice annuel.
Anne, femme de Elkana et seconde épouse, mais aimée de son mari, est stérile. Pénina, la première épouse de Elkana, est jalouse d'Anne, car si elle a des enfants, elle n'a pas la préférence de son mari. Elle est jalouse et fait souffrir Anne. Jusqu'au jour où Anne monte au temple pour prier Dieu et lui demande de la rendre féconde. Elle y rencontre le prophète Élie qui lui donne la réponse qu'elle attendait depuis longtemps de la part de Dieu. Elle mettra au monde un fils. Ainsi naît Samuel. Après avoir sevré Samuel, Anne le confie au prophète Élie. L'enfant vivra avec Élie et servira Dieu pour devenir prêtre plus tard. Anne sacrifie à Dieu son enfant pour le remercier de l'avoir rendu féconde. Elle mettra au monde encore 3 fils et 2 filles. Quant à lui, Samuel, il grandit au temple avec Élie pour seule famille.
Anne, sa mère, et Elkana, son père, viennent chaque année porter des sacrifices au temple, palombes, agneaux, en général pour la Pâque, comme bon nombre de familles juives selon la tradition. Dans le judaïsme d'il y a 2500 ans, les sacrifices offerts par les hommes étaient le signe du lien visible entre Dieu et sa création et se faisaient prières et gestes de louange et de remerciement à Dieu pour la vie donnée, mais aussi mémoire et supplication. Les parents de Samuel le rencontrent et Anne, sa mère, lui offre chaque année un éphod neuf qu'elle a confectionné elle-même. Une bande de tissu de lin tissée par les femmes que les hommes et les enfants portaient, comme le roi David par exemple, qui dansait à demi-nu devant l'arche et simplement vêtu d'un éphod. Ce vêtement est aussi le vêtement que les prêtres et serviteurs de Dieu portent en signe d'humilité lorsqu'ils sont au service de Dieu. C'est un vêtement de culte.
Anne, en tissant pour son fils Samuel ce vêtement de lin, il noue son âme à son geste, son chant à son amour, sa parole à sa main qui lance la navette sur le métier. Anne met dans le vêtement de son fils bien plus que son amour. Elle y met de son souffle, de son énergie, mais aussi sa vie, celle que lui a donnée le Seigneur. Le tissu dans ce texte est le symbole de l'assemblage des deux premiers fils sur la trame du métier de la vie. Celui de la prière d'Anne dans le temple, alors qu'elle n'avait pas encore d'enfant, et celui de la réponse de Dieu au travers de la personne d'Élie, le prêtre qui sert Dieu au temple de Silo.
Dans l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, l'étoffe est le symbole du rang social, cultuel, mais aussi signe et fruit de l'amour entre l'humain et Dieu. C'est Dieu, au travers du tissage et du vêtement, qui se fait présence et amour. Il donne, il protège, mais aussi il prépare la place de chacun. Ainsi, Samuel est l'enfant de l'amour, et cet amour-là l'habille, le protège et le place au rang de successeur du prêtre de ce temple de Silo. Anne, sa mère, avec son mari, monte chaque année donner une offrande au temple et voir leur fils. Elle, elle l'habille, le couve, part et de son amour. Mais le vrai sacrifice de Anne, son offrande vivante, c'est en fait Samuel, l'enfant tant désiré, le fils premier-né offert à Dieu en remerciement. Les autres dons et sacrifices ne sont là que pour remercier l'exaucement de sa prière.
Dieu a pris à son service ce jeune garçon qui deviendra son prophète, mais il donnera à cette mère d'autres enfants. Anne est non seulement l'épouse choisie, aimée, mais elle deviendra aussi la mère d'un futur prêtre et prophète qui sera le conseiller du roi David. Sa prière aura tissé avec d'infinie patience et précision une histoire d'homme peu ordinaire, celle de Samuel. Et en attendant que l'enfant se fasse homme, elle tisse le pagne de son fils chaque année, comme Dieu a tissé en elle ce Samuel, fruit de l'amour et de la foi, de la patience et de l'obstination, de la prière et du chagrin, des larmes et des chants, des questions et des réponses. De sa foi déterminée et de son cri lancé vers le ciel, elle aura poussé Dieu à se mettre à l'ouvrage et à tisser la vie au fond d'elle. Et Dieu lance la navette sur le métier de la vie et Samuel naît. Samuel qui servira le Seigneur, véritable auteur de ses jours. Il va vers Dieu, vêtu par sa mère du symbole des fils ténus d'une lutte âpre pour que la vie soit et que Dieu tienne parole.
If the sun would lose its light and we lived an endless night and there was nothing left that you could feel, that's how it would be. What my life would seem to me if I didn't have your love to make it real.
L'histoire d'un autre enfant. Après Samuel, voici l'histoire de Joseph, le fils que le patriarche Jacob a eu avec sa femme bien-aimée. Il a eu d'autres enfants avec trois autres femmes, mais c'est Rachel qu'il aimait. L'histoire commence lorsque Joseph a 17 ans. Il garde les moutons et les chèvres avec ses frères, les fils de Bilha et de Zilpa, co-épouses de son père. Jacob aime Joseph plus que tous ses fils, car il l'a eu lorsqu'il était déjà vieux. Il lui a fait confectionner un vêtement brodé magnifique. Les frères de Joseph voient que leur père l'aime plus qu'eux, alors ils se mettent à le détester. Ils ne sont même plus capables de lui parler gentiment. Un jour, Jacob dit à Joseph, « Tes frères gardent le troupeau près de Sichem. Va les voir de ma part. » Jésus répondit, « Je veux bien, père. » Jacob dit encore, « Va voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau va bien, puis reviens me porter des nouvelles. »
Quand Joseph arrive près de ses frères, il lui arrache le vêtement merveilleusement brodé qu'il porte sur lui. Il s'empare de Joseph et le jette dans un puits vide sans eau. Ensuite, il s'installe pour manger. Au loin, ils aperçoivent une caravane d'Ismaélites qui viennent de Galaad. Leurs chameaux transportent vers l'Égypte plusieurs produits, de la gomme, de la résine et du laudanum, destinés aux soins des malades et à l'embaumement des morts. Judas dit à ses frères, « Quel intérêt aurions-nous à tuer notre frère et à cacher son cadavre? Mieux vaut le vendre à ces nomades. Ne touchons pas à sa vie, c'est notre petit frère, il est de notre sang. » Les frères de Judas sont d'accord avec lui.
Les frères égorgent un bouc. Ils prennent le vêtement de Joseph, le trempent dans le sang. Puis ils envoient la belle tunique à leur père avec un messager chargé de lui dire « Nous avons trouvé ceci. Vois si ce n'est pas le vêtement de ton fils. » Jacob reconnaît le vêtement. Il dit « C'est la tunique de mon fils. » Une bête sauvage a lacéré Joseph pour le dévorer. Jacob taillade ses vêtements, il se couvre d'un habit de deuil et il pleure son fils pendant des jours et des jours. Tous ses enfants viennent pour le consoler, mais il refuse les condoléances. En effet, il dit « Je serai encore en état de deuil quand viendra pour moi le temps de descendre rejoindre mon fils au séjour des morts. » Et Jacob n'arrête pas de pleurer. Cette histoire est racontée dans le livre de la Genèse au chapitre 37.
Vous êtes sur Radio Grand Ciel et nous parlons de vêtements, et notamment de cette tunique brodée de Joseph dans le livre de la Genèse. Quelque part, je comprends la jalousie des frères de Joseph. Son père Jacob n'aurait jamais dû montrer sa préférence pour un de ses fils, et lui offrir cette veste merveilleusement brodée ne pouvait qu'attiser le sentiment d'injustice et de déception. En fait, le tissu qui habille l'homme, la tunique brodée de Joseph, tout comme le pagne de Samuel, explique l'histoire de celui qui le porte. Le vêtement marque la dignité et le rang. Ici, Joseph est le plus petit de la fratrie, mais c'est lui qui aura un rôle prépondérant à jouer. Quand la Bible parle de vêtements, elle parle de l'existence humaine. On aura des vies faites avec amour, mais aussi certaines déchirées et maltraitées par la jalousie et la violence, même quand ils sont frères et quand ils devraient prendre soin les uns des autres. La tunique de Joseph est déchirée. Celle de Jésus sera tirée au sort. Dieu habille de fourrure Adam et Ève au moment de leur sortie d'Éden, et à la toute fin de l'histoire, il vêtira ses élus d'un vêtement blanc. Si Dieu donne et habille l'homme, souvent l'homme défait la promesse et le don de Dieu.
Ici, le jeune Joseph est le chouchou de son père, et il le sait, et il est en effet aussi le chouchou de Dieu, qui lui envoie des visions et des songes où il domine ses frères. Peut-être que ce doux rêveur commençait à prendre la grosse tête, et ses frères le ramènent à la réalité, un peu durement, il faut en convenir. Ici se pose le problème de l'élection. Comme celui de la prédestination ou de la consécration. C'est un terme religieux qui fait peur et suscite le dépit et la jalousie de ceux qui ne se sentent pas choisis. Je pense au peuple élu, au peuple d'Israël d'abord, mais aussi à l'Église du Christ qui a repris à son compte ce privilège d'être le nouveau peuple élu. Les demi-frères de Joseph, nous dit la Bible, se mettent à le détester. Ils ne sont même plus capables de lui parler gentiment.
C'est ce qui risque d'arriver continuellement à ceux qui se prennent pour le peuple élu. Ce qu'il faut savoir, c'est que, d'accord, on est peut-être élu, mais on n'était pas candidat. On n'a pas fait de campagne électorale, on n'a pas proposé de programme particulier. Ce choix nous tombe dessus, et la plupart des prophètes et des héros de la Bible hébraïque, Jonas, Gédéon, Jérémie et tant d'autres, se plaignent de cette élection. Ils se rebellent. Choisis plutôt quelqu'un d'autre. En fait, l'élection ne se comprend qu'en fonction du service. On n'est pas élu pour rien, pour soi, mais pour une mission spéciale au service des autres. Joseph va recevoir la mission de sauver sa famille et le pays d'Égypte de la famine qui menace les années de vaches maigres. Si Dieu avait choisi quelqu'un d'autre, Joseph n'aurait pas eu à subir l'humiliation du puits, ni l'exil en esclavage, ni les prisons de Pharaon.
Alors l'heure avance, le temps file pendant que nous brodons ce patchwork. Voici une histoire qui parle de fil d'or et de tapisserie des Flandres. Un conte de sagesse qui dit que nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez et qu'il faudrait élargir notre regard. Un jeune moine fut envoyé pour quelques mois d'apprentissage dans un monastère des Flandres. Avec d'autres moines, il devait tisser une importante tapisserie. Un jour, il se leva brusquement de sa chaise, indigné. Il se mit à crier, rompant la règle du silence. « Ça suffit. Je ne veux plus continuer comme cela. Les instructions qu'on m'a données sont stupides et insensées. Je suis en train de travailler avec un fil d'or. Je m'applique, mais je n'ai pas fait 3 points qu'on me dit tout à coup de nouer et de couper là. Ça n'a pas de sens, c'est du gaspillage. » « Mon cher fils, lui dit un frère plus âgé, tu es novice et tu ne vois pas la tapisserie comme elle doit être vue. Nous sommes assis du côté de l'envers et tu travailles sur un seul point. »
Il le conduisit de l'autre côté de la tapisserie, bien tendu, dans cet immense atelier. Le jeune moine eut alors le souffle coupé. Il avait travaillé au tissage d'une œuvre monumentale qui représentait l'adoration des mages. L'ensemble était plongé dans une obscurité d'ocre et d'ombre, de bleu nuit et d'obscurs paysages. Seul son fil d'or éclairait les cheveux de l'enfant couché sur la paille. Chacun de nos points a sa couleur et sa logique. De près, nous ne voyons rien de l'immense mosaïque où nous apportons notre teinte propre. Lumineuse ou discrète, chacune de nos vies s'intègre dans le projet du maître. Nous sommes des novices, mais lui, il connaît son métier.
Je vous propose de prier. Seigneur, nous croyons en toi. Viens au secours de notre faible foi. Toi qui as marché sur les routes des hommes, qui as croisé leurs misères et guéri leurs infirmités. Toi qui as mêlé ta vie à celle des pauvres, des veuves, des ouvriers et des marins. Nous te le demandons, viens croiser nos routes aux jours de fête et aux jours de détresse. Viens tisser du lien entre nous et nous rendre plus aimants, plus fraternel, plus attentif aux autres et à leurs talents. Nous voulons te présenter dans nos prières toute ton Église répandue sur la surface de la terre et les communautés qui vivent en France, nombreuses, diversifiées, porteuses de ton Évangile afin qu'elles constituent partout en ton nom et sous ta direction cet espace de rencontre et de paix où chacun peut trouver l'aide et la compassion. Fais de chacun de nous les témoins et les ouvriers de ta justice et de ta paix. L'heure est venue de reprendre la route. Merci pour cette étape à portée de voix, à portée de cœur. De fil en aiguille, voici tisser la trame de cette journée. Bonne journée à toutes et à tous. Amen. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au Temple, 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.
I've seen you change the water into wine. I've seen you change it back to water too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine.